Loïc Tassé, politologue et chroniqueur, salut.
Bonjour Bernard.
Alors, au programme aujourd'hui, le gouvernement chinois d'abord qui contredit Donald Trump sur la Corée du
Mais
Nord.
Oui. Hein? Mais oui, est-ce que c'est pas étonnant ça? Donald Trump qui était revenu en disant, de Corée du Sud, je veux dire, en disant, et de Chine, en disant, écoutez, c'est fait, les Chinois ne demandent pas ce qu'on appelle le double moratoire, c'est-à-dire que il n'y ait plus de bombes nucléaires en Corée du Nord, ça on le savait, mais aussi qu'il n'y ait plus d'exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis. Cette condition-là, cette dernière-là tomberait. Tout ce que veulent les Chinois, c'est qu'il n'y ait plus de bombes nucléaires en Corée du Nord. Or, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Chine a dit non, non, le double moratoire est la solution la plus réaliste, la plus faisable, la plus juste et la plus légitime. Et d'ailleurs, les Chinois envoient demain vendredi un émissaire spécial en Chine, un émissaire spécial qui devrait en théorie présenter au gouvernement nord-coréen les conclusions du dernier congrès du Parti communiste chinois, mais qui en réalité va très certainement discuter de la question nucléaire en Corée du Nord. Mais les Chinois n'abandonnent pas leur position, ils veulent que les États-Unis cessent leurs exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, donc ils veulent qu'ils se retirent de cette militairement de la péninsule coréenne.
OK, mais quand on dit plus de bombes nucléaires en Corée du Nord, mettons là, que les États-Unis, c'est pas le cas actuellement, mais mettons que les États-Unis seraient prêts à cesser leurs exercices militaires avec la Corée du Sud, selon ce double moratoire, à ce moment-là, la Corée du Nord devrait renoncer à toute forme d'armes atomiques?
Oui. Mais il reste à voir comment ça pourrait être appliqué et comment ça pourrait être surveillé.
Mais à ce moment-là,
les Chinois probablement auraient un véritable blocus autour de la Corée du Nord, feraient de véritables pressions. Et maintenant, 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord se fait avec la Chine. Donc, c'est vrai, les Chinois peuvent faire pression sur la Corée du Nord. Mais est-ce que les Nord-Coréens vont accepter les conditions des Chinois? Ce serait autre chose. Mais...
Allô, allô? Je pense qu'on vient de perdre Loïc. La ligne a coupé, alors on va recomposer. Ah, il est revenu.
Non,
bonjour.
Je suis toujours là.
Excellent. Donc, on va voir ce que cet envoi chinois ou cet envoyé chinois va avoir comme discussion avec la Corée du Nord, puis on verra bien ce qui sortira de ça. Parlons maintenant des les magazines Time et Fortune, qui sont quand même de grandes institutions de la presse américaine, qui pourrait être acheté par des ultra-conservateurs à la Trump?
Oui, ce seront les frères Koch qui pourraient lancer une offensive hostile pour les acheter. Times Inc., donc qui regroupe entre autres Times et Fortune, vaut environ 2,4 milliards de dollars. Et donc, ces gens ont dit qu'ils feraient l'acquisition avec le groupe de médias Meredith, qui est basé en Iowa. Meredith, c'est un groupe de médias qui a des magazines de type familiaux et des chaînes de télé locales. Donc, qu'ils essaieraient de faire l'acquisition de Times et de Fortune. C'est une acquisition hostile. C'est le New York Times qui révèle ça. Et évidemment, ça, si tu veux, ça accentue toute la guerre médiatique qu'il y a aux États-Unis. Imagine si ces gens ultra-conservateurs se mettent à essayer de contrôler la majorité des médias américains. Il va y avoir un véritable problème pour la diversité d'opinion dans les médias américains.
Bien, on a déjà un affrontement entre CNN et Fox. On pourrait avoir, dans le fond, un peu un affrontement un peu semblable, mettons, entre New York Times d'un côté et le magazine Time de l'autre. Le New York Times
Exactement.
Étant plus à gauche, le Time qui deviendrait une espèce de Fox
oui.
News de la presse écrite.
Et on peut ajouter à ça que beaucoup de médias locaux, de radio, de télévision locale, sont très, très à droite aux États-Unis, ont été achetés par des groupes de droite déjà.
OK. Au Cambodge. Écoute, parle-nous-en parce que
on n'en parle pas souvent, hein?
Mais non, mais mon chauffeur de taxi, ce matin, il me parlait du Cambodge. Et puis là, je dis, oh boy, même si les chauffeurs de taxi commencent à s'intéresser au Cambodge, c'est que ça devient très important, là.
Ben, c'est très important parce que le parti d'opposition du Cambodge, le principal parti d'opposition, le Parti du Sauvetage National, vient d'être dissous par la Cour suprême du Cambodge à la demande du ministère de l'Intérieur. Alors, en théorie, Kem Sokha, qui est le président donc de ce parti qui vient d'être dissous, aurait fait un discours où il aurait demandé une révolution démocratique, un peu comme la révolution des couleurs, tu sais, pour mettre dehors le gouvernement actuel. Or, c'est totalement faux. En fait, il s'agit d'un montage d'un discours qu'il a fait en 2013. Et en fait, ce qui se produit, c'est que le parti qui est au pouvoir en ce moment, le parti de M. Hun Sen, l'actuel président du Cambodge, est en train de transformer le pays en une véritable dictature. Les élections législatives vont avoir lieu en juillet 2018. Et lui, qui est quand même au pouvoir depuis 32 ans, tu te rends compte, Hun Sen, qui est premier ministre du Cambodge donc depuis 32 ans, est à la tête du Parti du peuple cambodgien et va se retrouver sans aucune opposition réelle devant lui, seulement avec des petits partis d'opposition qu'il va pouvoir gouverner comme des marionnettes. Alors c'est très inquiétant ce qui se produit là-bas. Et tout ça se fait sous le regard, j'allais dire presque attendri, de la Chine, qui est extrêmement présente au Cambodge. En fait, le Cambodge est complètement inféodé à la Chine et on voit bien ce qui arrive dans ces pays qui sont inféodés à la Chine. Tu as une dérive autoritaire qui se produit.
Oui. Et puis évidemment, les Chinois s'acoquinent avec le gouvernement cambodgien pour faire contrepoids au Vietnam.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, Loïc Tassé. On se reparle demain.
Plaisir.
Et dans un instant, on parle de cette découverte d'un médicament très prometteur pour traiter la maladie de Lou Gehrig. Puis c'est ici, au Québec, à Montréal, qu'on a commencé à développer ça, là, qu'on a fait cette découverte-là. On en parle dans un instant.